Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons notre économie en folie. Bonjour Bernard.
Et bonjour à tout le monde.
Les limites de la croissance connue sous le nom de rapport Mendov est un rapport demandé à des chercheurs du Massachusetts par un club de Rome en 1970. Ça a été publié en anglais en 72 et traduit en français dans la même année. Ce rapport est la première étude importante soulignant les dangers pour la planète Terre et l'humanité de la croissance économique et démographique que connaît le monde. Le sujet est lancé, on va parler donc de cette fin du monde. Un sujet que nous avons dû accorder nos violons, Bernard, parce que vous vouliez la fin du monde, moi je voulais la fin d'un monde. Finalement, on s'est bien accordé puisque nous sommes bien d'accord, ce sera la fin d'un monde. Mais est-ce que l'effondrement, cette crise expliquée par un amas de symptômes, est-ce que les économistes sont, eux, d'accord?
Bien, comme d'habitude, pour les économistes qui se prétendent aussi scientifiques alors qu'ils ne le sont pas, il y a effectivement toujours débat. Mais on est bien d'accord sur un fait, quelque chose, c'est si on annonce la fin du monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un autre monde derrière.
Tout à fait.
Si on est optimiste, il y aura des leçons à tirer, un redressement, etc. Donc il faut être ou optimiste ou pessimiste.
Oui.
C'est un débat qui durera longtemps.
Et nous parlons quand même en économie.
Économie. Que se passe-t-il? Puisque actuellement, depuis 2 ans, on peut dire, les économistes, un certain nombre d'entre eux, ont rallié cette thèse, cette hypothèse, cette certitude pour certains de la fin de notre planète Terre, telle qu'elle est, de l'explosion. Comment et pourquoi des économistes qui sont sur l'économie, les échanges, le marché, oui, l'industrialisation, pour certains, se préoccupent tant que ça de notre monde et parle d'un effondrement, voire d'un collapse.
Donc ça sera...
C'est le terme un peu technique. C'est à la mode, on en parle beaucoup, y compris à la télévision. On a vu des émissions récentes, par exemple avec M. Hulot, extrêmement pessimistes qui annoncent cette fin du monde. Que se passe-t-il réellement? En introduction, c'est vrai, tu as parlé du rapport Mendov. C'est un rapport du Massachusetts Institute of Technology, mm-hmm, et qui a été fait et publié, disons, en 72. Et la commission qui a travaillé dessus, les scientifiques qui ont travaillé dessus, étaient accompagnés aussi d'économistes, d'industriels, etc. En fait, dans cette commission qui a travaillé sur ce rapport, il y avait 52 pays représentés, et d'ailleurs tous les pays de l'OCDE. Mais rendez-vous compte, en 1972. Et puis, on n'en a plus reparlé. Ou si peu. On n'en a plus reparlé. Et puis tout d'un coup, ça revient brutalement. Que s'est-il passé? Les économistes y font référence, certains d'entre eux. Pourquoi? Ben, il y a quelque chose de fort dans ce rapport. C'est qu'il annonçait la fin d'un monde pour 2030. C'est dans 11 ans.
Ah oui.
Et pour lui, là, c'est une fin qui venait, en fait, d'un problème d'effondrement de la population par manque de nourriture.
Oui.
Vous voyez combien ce rapport était extrêmement pessimiste. Mmh. On est à 11 ans de cette fin du monde, mais on ne le sent pas, la malnutrition.
Est-ce que l'effondrement est possible et est-ce qu'il a commencé?
Voilà. Alors, l'effondrement est plutôt un phénomène qu'il faut voir d'une manière globale. Alors, aujourd'hui, le diagnostic d'économistes, de sociologues, de biologistes, d'industriels, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus large, qui concerne l'ensemble de notre système planétaire et qui est encore plus terrible. Mmh. Et c'est ça dont il faut peut-être parler. C'est une grande accélération de cette dégradation de la planète à laquelle on assiste. On y assiste honnêtement tous les jours. Le système Terre, qui est totalement interconnecté, tout est interconnecté, la planète est devenue toute petite. On échange des marchandises qui font le tour de la Terre et qui ne valent pas grand-chose. Et elles ont fait le tour de la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une première inquiétude, c'est la population mondiale. On l'a vu au mois de mars. La population, quand on a parlé à Chine, il y a deux hypothèses sur la population mondiale. Est-ce qu'on sera 11 milliards ou est-ce qu'on sera 16 milliards d'hommes dans 80 ans, mmh, sur la planète? Est-ce qu'on arrivera à ça? Ça change tout si on est 11 milliards ou 16 milliards. Deuxième chose que l'on constate tous les jours, et là ça parle à tout le monde, le réchauffement climatique.
Oui.
On assiste à des événements qu'on n'avait jamais prévus. Alors il y a gros débat, hein. Il y en a qui disent « mais il y en a déjà eu dans notre histoire ». Oui, certainement, il y en a déjà eu. Mais est-ce que c'est aussi ample ? On le voit, des catastrophes naturelles. L'eau de mer, le niveau de de mer monte. Et on sait qu'il y aura des conséquences terribles. Il suffit que la mer gagne 3 mètres en hauteur pour qu'il y ait des millions de personnes qui se trouvent inondées, des quantités phénoménales de terre qu'on ne pourra plus travailler. Mmh. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on touche. On le voit à la télévision, dans plein de et on le voit concrètement dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a vu au mois de février dans le Volvestre et au-delà ? On a vu une absence d'hiver, absolument. Et ça fait, ce n'est pas la première année, ce n'est pas un accident. Ça se généralise.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ? Et comment vont réagir les plantes, les êtres vivants ? On a vu la télévision tout à fait récemment, la dégradation forte de la mer aussi. On parle du plastique, des mers de plastique. Où va-t-on ? Que vont devenir les poissons ? Voilà des questions concrètes auxquelles les gens ne les remettent pas en cause. Je prends le plastique parce que tout le monde a vu les images et tout le monde s'est rendu compte du danger que ça représente. Ensuite, l'effondrement de la biodiversité. C'est un effondrement qui est colossal. Les petits oiseaux disparaissent à toute allure. Ah, bien sûr, dans les petites villes, petits villages, auprès des maisons, on peut voir encore un merle, un rouge-gorge, une bergeronnette ou une mésange. Mais allez vous promener dans les bois, allez chercher des cèpes, allez ferler, allez au milieu des champs, qu'est-ce que vous allez voir ? Rien, 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 vous ne verrez plus un oiseau. Et ça va être terrible, les hirondelles vont disparaître. Mais aussi tous les insectes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, ça signifie que nos partenaires essentiels à l'équilibre de notre vie sur cette planète sont en train de disparaître. Les insectes sont en train de disparaître. Oh, bien sûr, on a les barbopuants qui sont derrière le volet. Bien sûr, mais allez dans le champ. Vous verrez, il n'y en a plus. Et ensuite, dans ces disparitions, l'énergie. Oh, on vient de vivre une période extraordinaire grâce à une taxe sur le diesel. Eh bien, le diesel, honnêtement, il y en a jusqu'à quand pour qu'il y en ait pour tout le monde ? L'essence, toutes ces énergies fossiles, eh bien, leur quantité diminue, on la consomme à toute vitesse. Alors on peut se dire, c'est peut-être loin du pétrole, on en a peut-être encore pour 50 ans, 80 ans. Oui, peut-être, mais ce n'est pas du tout sûr. Et surtout, plus il va se raréfier, plus son prix va augmenter. Alors là, ce n'est pas un problème de taxe, c'est un problème de marché. Voilà, ça c'est la nature qui est concernée, tout ce qui nous entoure. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a un accroissement fantastique des inégalités sociales et financières. Et ça aussi, c'est un dérèglement de notre planète.
C'est, je crois, le majeur.
Et ça serait peut-être le dérèglement majeur. Au niveau des économistes, là, ils mettent bien l'accent. Et c'est peut-être nouveau en soi. Ça veut dire qu'on va avoir des crises financières, des crises d'entreprise, des crises colossales. Mais derrière, on y assiste depuis de nombreuses années, on assiste à un enrichissement d'une minorité des populations, quels que soient les pays. Mmh. Il y a des milliardaires en Chine, il y a des milliardaires en Inde, il y a des milliardaires au Bangladesh. Dans les pays les plus pauvres du monde, il y a des gens extrêmement riches. Des familles, des clans, que sais-je, qualificatif. Que font ces individus ? Que font-ils ces groupes-là ? Eh bien, ils cherchent à tout prix à sauvegarder leur avantage. Ils ne font que ce qui est bon pour eux. Et que va devenir la planète ? Eh bien, ça veut dire très simplement que par rapport à ces inégalités, eh bien, il va y avoir des colères. Il va surgir des colères massives. On pourrait s'attendre à des révolutions d'État. Ils ont les moyens de les opprimer aujourd'hui, vous savez.
Oui.
La technique, la chimie, l'armée, l'armement. Mais ça va générer des conflits au niveau des États. Donc, quelque part, on peut dire que la planète est de plus en plus contrôlée et au service des plus riches.
Oui.
Qui cherchent à accumuler, à se protéger de tout. Ceci est terrible, terrible, terrible. Autre effet aussi qu'il faut analyser dans le devenir de notre planète, c'est l'effondrement de la démocratie. C'est lié avec cet accroissement des inégalités. Pourquoi s'intéresser aux débat démocratique, quand on voit qu'on gagne peu, qu'on a difficulté à bosser ou à entretenir sa famille, par rapport à des familles qui, elles, ne font absolument rien. Elles sont conseil d'administration de ceci ou de cela et elles encaissent les dividendes qui ne font que progresser. Si vous prenez les dividendes des grandes entreprises françaises 2018, c'est un scandale absolu. Ils se sont augmentés de 15, 20%, 30% d'office. Hein ? On va distribuer le dividende aux plus gros propriétaires et aux grands chefs de ces entreprises. Ça entraîne une disparition de la démocratie. Quel est le poids de ma voix pour peser sur les éléments? Ben, ça ne compte plus rien, c'est plus pris en considération. Vers quoi ça porte? Ça porte vers la révolution armée, quelque part.
Oui. Quel est le point de vue, justement, des économistes, là, aujourd'hui, en 2019?
Ben, il n'y a pas de point de vue unique. Je rappelle, l'économie, les économistes, ce ne sont pas des véritables scientifiques. Ils n'ont pas de démonstration de tout. Oui. Ils ne peuvent pas dire ça, c'est établi scientifiquement. Ce n'est pas des médecins ou des chercheurs en médecine ou en chimie. Donc, c'est une analyse, c'est regarder les événements, les séries chiffrées, bien sûr. Alors, chacun peut avoir des analyses différentes, en tirer des conclusions différentes. Là, actuellement, on assiste à ce qu'une majorité, c'est pas l'unanimité, une majorité de gens qui se disent économistes ou qui ont ces fameux diplômes d'économie, qui peuvent à tout prix et qui peuvent dire la planète est mal barrée.
Ouais.
Ça va très mal. Et quand je vous parle de la progression des inégalités, vous avez des économistes très connus qui disent que c'est une catastrophe pour notre planète parce que ça génère effectivement des tensions qui seront énormes et de l'autre côté un gaspillage énorme. Comment voulez-vous motiver des populations les plus pauvres pour leur dire ne jetez pas votre plastique dans l'eau? Ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas cette culture. Ils sont dans la survie pour manger, pour essayer d'élever leurs enfants et la santé. Comment vous pouvez expliquer que pour ceci, il ne faudrait pas dépenser autant de carburant, etc. Vous allez expliquer ça à des familles qui, le week-end, pour aller faire une balade des enfants, ben pourquoi on n'irait pas à la mer et qu'on ne ferait pas de 100 km d'autoroute? Et on prend la voiture qui, bien sûr, est certainement très peu réglée ou génère beaucoup de CO2. Et alors, vous allez leur dire ça, ça et ça, fais l'effort, ne le fais pas. Mais que fait le riche qui lui prend l'avion et qui ne paye pas de TVA sur le carburant? On n'en parle pas du carburant des avions qui font le tour de la planète. Allez expliquer ça. On va se retrouver avec le débat qu'on connaît avec un peu avec les gilets jaunes. Allez expliquer cet écart. Parce qu'il n'est pas propre à notre pays maintenant. Il est propre à la majorité des pays.
En effet.
Et ça se traduit par coup la Chine, la Russie, la Turquie. Ça se traduit par des dictatures extrêmement violente.
Oui.
On zigouille, on tue, on emprisonne les opposants, les gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Vous avez cette image. Ça va aller jusqu'où, ça?
Oui.
Est-ce que ce n'est pas un élément de la fin du monde? Alors, en ce qui me concerne, je partage cette analyse de dire on va vers un effondrement de la planète. Alors, à un moment, ça va déraper de partout.
Oui. Alors, justement, est-ce que, puisque nous allons vers l'effondrement, on en est quasiment certain, un effondrement monétaire du système, est-ce qu'il ne vaut pas mieux l'effondrement plutôt qu'un krach boursier?
Ouf, le krach boursier, il y en a, il y en aura, il y en aura encore.
Oui, ça, certes, mais les effondrements aussi finalement.
Mais des effondrements à la planète a connu des périodes. Pourquoi les dinosaures sont-ils partis? On a connu des variations incroyables, des phénomènes sur notre petite Terre. À l'époque, elle était très grande. Les dinosaures n'avaient pas Internet, parce que certains se seraient peut-être mis à l'abri, pour le dire avec humour.
Oui.
Là, on a un contrôle total de la population. On a tous Internet, on a tous la radio et tout ça. Mais les grandes entreprises du secteur, elles savent tout sur nous. Elles peuvent nous orienter, elles peuvent nous envoyer, ça c'est très à la mode, des fausses informations qui entraînent de notre part des réactions qui sont totalement inadaptées à la situation. Bien sûr, vous voyez passer des informations extraordinaires, comme quoi, par exemple, le diesel est neutre pour notre planète, signé machin, scientifique quelque part, invérifiable, bien sûr. Il a publié ça, donc je l'ai vu sur Internet, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, on ne s'en sort pas. Oui. On ne s'en sort pas. Mais je voudrais ajouter quelque chose, peut-être que ça veut parler là aussi. Dans cet état de tension qui se crée entre les populations et les gouvernements, entre les pays, vous savez, quand vous avez une population qui n'est pas d'accord, qui proteste, etc., que fait le pouvoir? Il faut désigner un bouc émissaire. c'est facile, le bouc émissaire. C'est pas nous, c'est la faute d'eux. Ben là, c'est très facile. C'est la faute de tel ou tel pays. Et allez, on va aller faire la guerre. Comme ça, c'est bon. Mm-hmm. Hein? Regardez, en Russie, les problèmes, ils ont des problèmes à l'intérieur, évidemment, puisqu'il y a eu les boycotts. Le monde est assez désorganisé. L'industrie ne produit pas grand-chose. Et bien, la Russie, les ennemis, les Russes se portent mal parce que c'est la faute des Européens. Et des Américains, bien sûr. Oui. C'est eux qui font esprit de ne pas prêter d'argent, de ne pas vendre de machines et tout. Voilà. Et donc, on dresse une population contre une autre. On sait ça dans notre histoire. Oui. Ça, c'est déjà vu. Et si vous demandez aux personnes vraiment âgées, ils l'ont connu, ça.
Oui.
C'est facile. Hein?
Mm-hmm. Avec cette façon de faire, est-ce qu'on engendre de nouvelles techniques de guerre? Et si oui, est-ce qu'on y est au seuil?
Ah ben, les nouvelles techniques de guerre, on les a expérimentées, tous les conflits servent à expérimenter. L'armée française qui est allée en Irak, elle a expérimenté des tas de choses. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Les Russes qui interviennent massivement en Syrie ont expérimenté tout leur appareil militaire. Mais bon, ça c'est, on pourrait presque dire, un peu conventionnel. Et des grandes bombes, des choses
extrêmement... Oui, mais il n'y a pas que cette guerre mais avec
non,
les
mais
bombes.
Là, et voilà, il y a l'autre guerre qui est derrière. Alors,
c'est
là
la
aussi,
guerre économique, finalement.
La guerre économique, elle est perpétuelle. C'est la concurrence.
Oui.
Elle est perpétuelle. Elle est presque intrinsèque à l'économie. Mais justement, elle dérape complètement parce que c'est plus par rapport au prix de revient, c'est par rapport aux bénéfices. C'est plus du tout la même chose.
Oui.
Hein, quel que soit le prix de revient, l'important, c'est les bénéfices que l'entreprise va en tirer.
Mm-hmm.
Pour revenir sur la notion de guerre et d'armement, ben vous savez, demain, la guerre, ça sera quoi? Ça sera un virus qui, tout d'un coup, arrivera sur une population. Hyper facile, maintenant.
Est-ce...
Par exemple, ça sera de la chimie.
Oui.
Ça sera à travers l'audiovisuel. Aujourd'hui, on contrôle... Tout le monde est interconnecté. On sait tout sur tout le monde. Et donc, on peut faire... plein de choses vis-à-vis de ce monde-là. Et en chimie, on a un tel progrès au niveau biologie.
Oui.
Hein. Un virus, on peut le répandre avec un drone sur la surface d'un pays sans problème.
Oui, oui.
Oui, bah, on y est. Et demain, on assistera à ce genre de choses.
Alors, quel est l'intérêt d'avoir une guerre, qu'elle soit, comme vous dites, chimique ou qu'elle soit bactériologique? Parce que si... s'il n'y a plus de population pour faire un certain travail, parce que malgré tout, il faut toujours un peu de travail, que feront les gens élites qui vont rester?
Ben oui, ce type de question est posé. Mais tout le monde ne sera pas, ce ne sera pas des guerres nécessairement qui viseront à tuer tout le monde.
Oui,
parce,
qu'une
partie, des gens, lorsqu'on leur dit la menace, elle est forte, ils baissent la tête et ils font ce qu'on leur demande. N'est-ce pas? On le voit tout le temps sur notre terre.
D'accord.
Tel ou tel pays, je ne donnerai pas le nom de pays d'Afrique, par exemple, qui ont fait... Alors, l'exemple est typique. Ces pays ont fait appel, puisque la France n'est de plus autant, l'Occident non plus, ils ne veulent pas voir les Américains, etc. Les Chinois étaient là, sont là, et ils arrivent. Vous voulez un bout d'autoroute, un pont, on vous le fait gratos. Enfin, gratos, on vous prête l'argent, à des taux très bas, etc., etc. Et puis, on vous fait ça, tout ça. On fait même venir nos travailleurs parce qu'ils sont meilleurs que vous, et ainsi de suite. Voilà. Et après, que dit la Chine? Ah, vous ne pouvez pas rembourser. Vous êtes engagé quand même. Alors, il faudrait peut-être, en compensation, nous céder ceci, voter avec nous à l'ONU, nous céder un peu de plus de terres à nos entreprises, etc. Et que fait le pays en question? Il baisse la tête. Le gouvernement, il dit OK, voilà, et ainsi de suite. Voilà.
D'accord.
La guerre, elle n'y est pas. C'est une menace à
oui,
ce niveau-là.
Mais c'est quand même une sorte de guerre.
Mais je reviendrai beaucoup sur notre planète. Parce que notre planète, telle qu'elle est, ce qui est frappant, c'est l'accélération. Vous voyez, dans les causes du devenir de notre planète, on a parlé d'économie, de marché, etc. Mais il faut quand même revenir au fond, c'est-à-dire notre planète, notre climat, nos plantes, nos vies, l'état de notre terre, notre eau potable. Il y a combien aujourd'hui de pays où il n'y a plus d'eau potable? En France, on risque d'y arriver à raison des entreprises privées qui font tout pour nous rendre l'eau de nos rivières non potable pour nous la vendre en bouteille. C'est sûr. Mais voyez, ce dégradement de la planète qui est très fort, qu'on nous masque, y compris d'ailleurs, puisqu'ici nous sommes dans le sud, la Haute-Garonne en particulier, en pleine zone rurale, y compris dans le monde paysan. Quand même, on nous masque tellement de choses. La dégradation qu'il se fait, c'est ça aussi qui met en danger notre planète. Parce que les populations, à un moment donné, les gens vont être obligés de réagir, il va bien falloir se nourrir. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas connaître des pénuries? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas connaître des proliférations de maladies liées à toute l'utilisation de cette chimie dans le monde agricole? Allez savoir. Hein, il y a plein de choses qui sont utilisées, elles sont présentées comme innocentes. C'est vrai qu'elles empoisonnent pas un village, c'est clair. Ça ne s'est jamais produit. Mais elles ne sont pas neutres par rapport à notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? L'inquiétude des écologistes est très forte. Et derrière, et on retrouve le rapport Meadow, du mythe, et derrière, c'est vrai que beaucoup de scientifiques, alors là, c'est chimistes, biologiques, biologistes, entre autres, sont extrêmement inquiets.
Vous nous faites un tableau de l'avenir vraiment très sombre aujourd'hui, Bernard.
Je fais un tableau de l'avenir très sombre parce que je le perçois, et ceci depuis quelques mois en fait, d'une manière extrêmement sobre. Parce que j'écoute mes collègues économistes, bien sûr. Mm-hmm. Et ces collègues économistes, ils vous parlent marge, hein, pour ne pas citer les journaux économiques habituels comme le Figaro, ils nous parlent marge, hausse des bénéfices, augmentation de la distribution de dividendes, relocalisation, modernisation de l'entreprise, ça coûte cher et on aura moins de travailleurs. Et à écouter, et tout d'un coup, ils vous parlent de la planète, grâce à nous, ça va mieux se passer, on va réguler les crises financières qui s'annoncent. Et oui, et tout d'un coup, je me dis, mais est-ce qu'ils sont dans la réalité? Ou est-ce qu'ils sont dans une petite bulle, tranquille, où ils regardent l'entreprise et son dirigeant? Et j'en suis là. Et c'est-à-dire que, en ce qui me concerne, je suis en train de muter, certainement, vers quelque chose qui est peut-être plus écologique, soyons honnêtes, plus attentif aux événements de la planète. Je suis pêcheur, donc j'ai bien constaté qu'à l'ouverture de la truite, je n'ai pas fait de miracle, et que dans le ruisseau, il n'y avait pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans d'autres ruisseaux, petites rivières, ils ont même balancé des tonnes et des tonnes de truites d'élevage. On marche sur la tête, on se le dit. Je suis chasseur. J'adore la nature et je suis chasseur, voyez, je tue des animaux. Eh bien, honnêtement, l'essentiel des oiseaux que je chasse, eh bien, c'est très simple. Il y en a, mais les autres, il n'y en a plus.
Bernard, est-ce que vous avez imaginé le futur de l'homme?
Pas encore, mais j'y rêve un peu. Parce que finalement, je me dis, c'est aussi mon futur, peut-être, si le destin m'accorde pas mal d'années de vie. Ouais. Eh bien, je le vois dans un endroit complètement renaissant, après un étouffement global, de nouvelles plantes émergées, de croisements des anciens, de nouvelles populations qui y retrouveront les populations anciennes, c'est-à-dire en migration permanente à travers l'Europe et le monde pour aller chercher du caoutchouc là-bas, de la nourriture là-bas, de l'eau chaude là-bas, etc. Un monde initial. Le début du monde. De nouvelles espèces, peut-être, qui auront été complètement transformées par la radioactivité, que sais-je. Je suis quand même, quelque part, un optimiste pessimiste. Voilà, ou un pessimiste optimiste. Comme vous voulez. Mais surtout, ce nouveau monde, je pense qu'il existera, qu'on résistera. L'homme est extrêmement inventif et à travers la catastrophe, il y en a toujours qui seront très malins pour s'en sortir. S'abriter, être au bon endroit, se déplacer, savoir se protéger. La planète est très ancienne, il n'y a aucune raison qu'elle ne continue pas à tourner avec la Lune autour qui nous fait très régulièrement un très large sourire.
Est-ce que l'homme va garder la mémoire justement pour pouvoir éviter de repartir comme on est arrivé?
Ça, je ne sais pas. Parce que je ne sais plus où on en est de ce point de vue de la mémoire. Quand on voit nos périodes avec la politique, nos périodes électorales, etc., je me dis très souvent, mais tout ça, ça a été vu, tout ça, ça a été discuté, et pourquoi ce n'est pas resté? Pourquoi ce n'est pas dans la mémoire collective? Simplement, ce que je voudrais remercier quand même quelqu'un de particulier qui m'a certainement ouvert beaucoup les yeux, c'est Pablo Servigne, qui est un biologiste qui a beaucoup écrit et qui écrit et qui passe actuellement beaucoup sur toutes les radios, etc., dans les journaux. Et il a une phrase que je trouvais extraordinaire. « Nous ne croyons toujours pas ce que nous savons. » Ça signifie très simplement, on sait qu'on va à la catastrophe, mais on n'y croit pas. Les hommes politiques n'y croient pas, les décideurs n'y croient pas, une grande partie de la population n'y croit pas. Mais pourtant, quand on discute, eh bien, on sait qu'on va à la cata. Voilà. Alors, c'est paradoxal. Mais il y a une explication qui relève des spécialistes du cerveau. Nous avons dans le cerveau un endroit précis. Et cet endroit précis, pour la vision du futur, il ne veut pas savoir ce qui est triste. Il est toujours sur ce qui est optimiste. Et puis ensuite, je dirais très simplement, et je rejoins un peu certains sociologues en l'occurrence, mais plus l'effondrement se fera, plus l'homme au final réagira, et donc un nouveau monde sur les ruines de l'ancien émergera.